Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une joyeuse année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors hier soir avec ma femme, on a fait tranquille. À 9h30, je me suis posé dans le lit, tranquille. Elle voulait encore regarder un film, donc je me suis couché un peu plus tard, mais c'est parce qu'on regardait un film. On a mangé des petits coquelets, c'était très sympathique. Et comme j'étais en vacances cette semaine, j'ai décidé de reprendre une prédication que j'avais déjà faite. Je l'ai quand même un peu retravaillée, ne vous inquiétez pas. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on se tourne vers l'adoption par la foi. Et s'il y a une chose qui est absolument merveilleuse, qui est absolument spécifique, c'est que le Nouveau Testament considère, ou que dans le Nouveau Testament, Dieu se présente comme notre Père. Et c'est vraiment une particularité. Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, alors que dans l'Ancien Testament, il se présente, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, votre suzerain. Dans le Nouveau Testament, Dieu est notre Père. Et cette paternité de Dieu, elle exprime cette volonté qu'il a de vivre une relation de proximité avec nous. Dieu veut une relation intime avec les êtres humains. Et dans les textes que nous venons de lire, l'apôtre Paul emploie deux fois le terme adoption ou iostasia. Et c'est une particularité de Paul, c'est-à-dire que Paul est le seul auteur du Nouveau Testament à utiliser ce terme. Il apparaît également dans les Éphésiens, Éphésiens 1, vous avez été prédestinés à l'adoption filiale dès avant votre naissance. Et Galate nous dit que Christ est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et en Romains, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et ce terme, ouiostesia, adoption, c'est un terme chargé. C'est un terme chargé, et à l'époque, il ne veut pas forcément dire ce qu'il dit pour nous aujourd'hui. À l'époque, l'adoption, elle joue un rôle sociopolitique crucial. C'est notamment l'adoption qui est utilisée dans la succession impériale. Toute la dynastie des empereurs Julius Caius, Jules César a adopté Octave, Octave a adopté Tibère, Tibère a adopté Caligula et Claudius a adopté Néron. Donc ce terme est déjà chargé d'un point de vue politique parce qu'il sert à la transmission du pouvoir. Vous retiendrez qu'ils sont assez intelligents, les Romains. Alors généralement, c'est quand même des neveux ou des petits cousins ou des cousins hein, qui sont adoptés. Ne vous trompez pas. Ils vont pas chercher n'importe qui. Mais ça te permet d'élargir l'éventail des compétences. Puis quand tu es empereur, tu peux vraiment choisir entre 50 personnes la plus compétente et ça te permet de... Voilà. Et c'est intéressant parce que 4 ans avant que Paul écrive l'épître aux Romains, il y a eu un gros problème, un énorme problème juridique a secoué l'Empire. Néron a été adopté par Claudius. Et le grand problème, c'est que Néron, était déjà marié à la fille de Claudius. Et comme dans le droit romain, l'adoption est totale, si Claudius adoptait Néron, il faisait de Néron un inceste, parce que Néron était marié à sa sœur. Alors, grand problème, ils ont dû faire venir tous les avocats, tous les juristes pour... Ils ont trouvé une solution assez pragmatique. Claudius a renié sa fille pour pouvoir adopter Néron. Et c'est là qu'il faut comprendre que, à l'époque, ou en tout cas dans la conception romaine de la famille, tout est centré autour d'un personnage, et c'est le père de famille. Et le père de famille a toute autorité. C'est lui qui a l'autorité juridique, il représente devant les tribunaux ceux qui sont en dessous de lui. Il a l'autorité économique, c'est lui qui signe les contrats, qui fait tout. Il a l'autorité sociale, c'est lui qui décide qui se marie avec qui fait quoi. Et il a aussi un pouvoir de vie et de mort sur tous ceux qui sont sous sa puissance paternelle, comme ils appelaient à l'époque. C'est-à-dire quand un bébé naissait, on présentait le bébé au père de famille et c'est lui qui décidait de le garder ou de l'exposer, comme ils appelaient à l'époque. C'est-à-dire il posait le bébé dans la rue, puis soit quelqu'un le ramassait, soit il était mangé par des animaux. Et c'est d'ailleurs un des critères qu'on savait que quelqu'un était chrétien. À l'époque, un croyant n'exposait pas ses enfants. C'était formellement interdit dans l'Église. Et donc, quand on comprend qu'il y a cette... Alors, je vais quand même le dire, le terme latin, c'est « pater familia ». Le père de famille, il a la « pater potestas », c'est-à-dire la puissance paternelle. Et donc, l'adoption, c'est de passer d'une puissance paternelle à une autre. Donc, je reste sous une... Si, l'autre terme, c'est une « adrogation ». C'est-à-dire que... J'ai la puissance paternelle et je décide de me mettre sous quelqu'un. Ça s'appelle une adrogation. Ça, c'est un autre terme. Et donc, le premier point que je veux mettre en avant, lorsque Paul emploie ce terme ouiostésia, ça veut dire que nous passons d'une puissance à une autre. Et c'est un peu ce qu'il explique lorsque Paul décrit sa mission qui lui a été confiée par Dieu en Actes 26 au verset 18. Paul a été envoyé pour leur ouvrir les yeux afin qu'il se tourne des ténèbres à la lumière de l'autorité de Satan à Dieu et qu'il reçoive le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en Dieu. Et donc, ouiostésia, déjà, c'est un terme qui a un sens spécifique. Et donc, lorsque Paul l'emploie pour parler du salut... Il veut parler du changement de relation. Notre relation avec Dieu, on change de statut. Il affirme que nous sommes passés sous la nouvelle puissance paternelle, celle de Dieu. À partir de maintenant, c'est Dieu qui a cette pater potestas sur moi, cette puissance paternelle. C'est Dieu qui a ce droit de vie et de mort, et c'est lui qui a toute autorité sur ma vie. Jusque-là. Que ce soit l'Épître aux Romains ou la lettre aux Galates, ils pointent sur la même conséquence de notre adoption, c'est-à-dire notre nouveau statut d'héritier. Et on le comprend avec cet héritage de l'Empire. J'adoptais quelqu'un quand j'avais pour lui transmettre mon héritage, c'est très important. En fait, pourquoi l'adoption était si importante, c'est qu'il fallait continuer les cultes familiaux faits aux ancêtres. Chaque famille avait sa petite son dieu, sa petite statuette ou voilà, je pense qu'ils étaient assez créatifs à l'époque aussi et il fallait absolument que ce culte continue et c'est pour ça qu'on adoptait pour éviter que le culte prenne fin. Et qu'on s'attire le courroux divin parce que des dieux ne sont pas respectés. Notre nouveau statut est celui d'un héritier, c'est-à-dire, comme le dit Romains 8, 17, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » Et en Galate, il va dans la même direction, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » En devenant fils et fille de Dieu, nous devenons aussi ses héritiers. Et le propre, du coup, du fils, c'est que cette nouvelle position contraste avec celle de l'esclave. L'esclave travaille pour ce qui ne lui appartient pas. L'héritier travaille pour ce qu'il ne lui appartient pas encore. Et donc, toutes les promesses de Dieu, le royaume, tout nous est promis par ce nouveau statut de fils que nous avons envers Dieu. Mais en même temps, l'héritier, c'est quand même une place un peu ambiguë. Ambiguë parce que lorsque je suis héritier, tout m'appartient, mais rien m'appartient. Un jour, l'héritier va recevoir sa part. Un jour, il rentrera en possession des biens. Mais aujourd'hui, en tant qu'héritier, rien ne m'appartient. Ou plutôt pas encore. Et moi, ça m'a marqué lorsque on a, l'année passée, changé d'appartement avec ma femme. On a signé le contrat de bail. Tout était réglé, tout était fait. Mais parce que c'était écrit 1er septembre sur ce contrat, on n'avait pas encore le droit d'habiter l'appartement. Et l'héritier, c'est un peu cette même position. C'est-à-dire que le contrat a été signé, tout est réglé. Mais pour le cas de l'héritage, il manque qu'une chose, c'est la mort du donateur. C'est-à-dire, voilà. Donc, en tant qu'héritier, nous sommes en possession d'une promesse qui n'est pas encore pleinement, ou dont nous n'en avons pas encore pleinement la possession. Nous avons la promesse d'un royaume, d'une vie éternelle, de régner avec le Christ, de partager avec lui, et pourtant, c'est pas encore là. Et donc le croyant, celui qui a la foi, vit sous cette tension. Et c'est la tension entre le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que je suis déjà héritier, mais je ne suis pas encore en possession. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais en Galates 4, Paul dira, « Voici ce que je veux dire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Quoi qu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors là, bien entendu, le moment fixé, c'est la venue de Christ, la venue de Jésus-Christ. Et en fait, là, Paul s'adresse aux Juifs de son époque, à ses compatriotes, et il leur dit, vous aviez la loi, vous aviez ces rites qu'il fallait suivre parce que vous étiez encore des enfants et donc que vous ne différiez en pas grand-chose d'un esclave. Maintenant, avec Christ, tout ce système rituel, ce système sacerdotal a été aboli. Et par Christ, nous pouvons nous adresser directement à Dieu. Et c'est vrai dans ce sens-là, et c'est vrai également que pour l'instant, nous sommes peut-être encore des enfants de Dieu et que notre filiation divine ne nous offre pas une condition bien supérieure à nos semblables. Et pourtant, Et je vais vous laisser avec cette espérance qui est absolument magnifique. Et pourtant, un jour, nous entrerons en pleine possession de notre héritage. Le jour vient où toutes les promesses de Dieu seront pleinement consommées. Comment est-ce que j'entre, comment va se passer l'entrée en possession de cet héritage? Et là, je dois avouer qu'on est face en fait à une anomalie. Et cette anomalie, c'est un peu un vice de procédure, vu qu'on parle d'un terme juridique. Alors que normalement, l'héritier entre en possession de son héritage à la mort du testateur, dans notre cas, ce n'est pas le testataire qui doit mourir, mais c'est l'héritier lui-même qui doit mourir pour recevoir sa part d'héritage. Ce n'est pas Dieu qui doit mourir. Bien sûr, Dieu ne peut pas mourir. Mais c'est moi. Moi qui dois mourir à moi-même pour entrer en possession de cet héritage. Et d'ailleurs, Romains 8, au verset 13, juste avant, il nous dit « En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tout comme le Christ a souffert, tout comme Jésus-Christ est mort pour nous, le croyant est appelé à mourir à lui-même. Et de cette façon, il entrera en possession de son héritage. Comment entrer en possession de son héritage? Mais comment devenir héritier? Comment est-ce que je deviens fils et fille de Dieu? Alors c'est assez clair. Juste avant, en Galates 3, au verset 26, Paul nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous êtes tous fils de Dieu et filles par la foi en Jésus-Christ. Et donc, pour reprendre les termes de la justification par la foi, l'adoption par la foi ne diffère pas. C'est par grâce que nous recevons cette adoption. C'est par grâce que nous devenons fils et filles de Dieu. Et c'est en plaçant notre confiance, notre foi, en ce Dieu qui s'est fait fils pour que nous devenions, nous, fils et filles. C'est cette foi en ce Dieu qui s'est incarné, qui a été crucifié et qui est ressuscité, que nous recevons cette adoption. Et cette adoption, elle n'est pas juste théorique, mais elle est réelle. Et elle est d'autant plus réelle que si vous prenez Galates, l'épître aux Galates, à peu près des versets, des chapitres 3 jusqu'à 4, Paul s'adresse aux Galates qui se sont détournés de la foi pour revenir aux œuvres. Et vous verrez tout l'enchaînement rhétorique part d'un principe: comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce par les œuvres que vous avez reçu l'Esprit? Ou est-ce par la foi? Il le dit d'ailleurs, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec joie? Et c'est intéressant, il finit au 4, au verset 5, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Et donc c'est un peu une rhétorique qui s'attache aussi à l'expérience que fait Paul en Galates. Il dit, mais vous avez reçu comment l'Esprit ? Cette façon intérieure, cette révélation intérieure où tout à coup, je m'arrête et je me tourne vers Dieu et je lui dis, Abba Père, tu es mon Père céleste et je t'appartiens. Et Paul leur dit, mais cette expérience de la foi, comment vous l'avez vécue ? C'est en respectant des règles, en faisant le bon esclave ? Non, c'est par la foi. Et de la même manière, et donc, c'est par la foi que nous recevons cette adoption qui vient de Dieu. Et donc, j'aimerais vous laisser comme conclusion, quelques points. Tout d'abord, il est nécessaire de s'approprier ce nouveau statut. Je ne suis plus un esclave devant Dieu. Je ne suis pas juste un serviteur, un esclave, mais je suis son fils et sa fille. Et cette vérité, elle doit transformer la façon dont on prie, la façon dont on loue Dieu, la façon dont on le célèbre. Parce que lorsque je me tourne vers Dieu, c'est son Fils qui se tourne vers lui. Et donc cette réalité de l'adoption que Christ est venu accomplir, nous offrir, elle doit transformer notre façon de prier. Christ, en Christ, Dieu s'est fait fils pour que nous devenions ses fils et ses filles. Et non seulement nous avons cette assurance d'être les enfants de Dieu, mais nous sommes également au bénéfice d'une vraie espérance. Et cette espérance est celle qu'un jour, nous hériterons de Dieu. Un jour, je vais pleinement hériter de Dieu. Et non seulement c'est une espérance, mais ça doit m'appeler à l'humilité. Parce que oui, un jour, je vais hériter de Dieu. Pleinement. Je vais entrer dans la pleine jouissance de mon salut. Mais aujourd'hui encore, je n'ai pas encore tout l'héritage. Aujourd'hui encore, je ne suis pas dans la pleine possession de cet héritage. Et donc, gardons cette espérance pour cette année. Et non seulement cette espérance, mais également cette assurance que Dieu prend soin de nous. Et que dans nos rapports avec lui, nous sachions lui adresser toute notre reconnaissance et que nous fassions aussi part de cette intimité avec lui. N'ayons pas peur d'avoir des conversations intimes avec notre Seigneur. Je vais finir par prier. Seigneur, je veux te célébrer de ce que dès avant la création du monde, tu m'avais choisi pour l'adoption. Avant même de créer le monde, tu avais déjà désiré m'adopter pour faire de moi ton fils. Et Seigneur, je veux te célébrer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Et surtout, je veux te reconnaître comme mon Père céleste. Comme celui qui, sur moi, possède cette puissance paternelle. Conduis-moi, Seigneur, et que ta grâce puisse renouveler notre cœur. Seigneur, que nous sachions tenir ferme cette espérance, cette assurance que tu nous donnes, que nous sommes tes enfants et qu'un jour, avec le Christ, nous hériterons du royaume. Amen.